juste 22h30 à Washington, 4h30 ici à Paris.
Édouard Dupenoit.
À 3h30 en temps universel, vous écoutez RFI Afrique Matin, 30 minutes largement consacrées à l'actualité africaine. Mais qui regarde bien sûr du côté des États-Unis, le 47e président prend ses fonctions, Donald Trump signe de premiers décrets. On continue longuement ce matin d'explorer les conséquences possibles, redoutées ou parfois espérées sur le continent africain. L'église de Madagascar prend la tête de la conférence écuménique de la Grande Île, ça tourne tous les ans, c'était attendu que ça soit le tour des catholiques. Ce qui l'est moins, c'est le ton très critique que ces catholiques justement emploient vis-à-vis du pouvoir politique, et cela depuis un mois. Armel Sayo arrêté au Cameroun, le gouvernement centrafricain confirme l'interpellation de ce chef rebelle à Douala en demandant qu'il soit extradé vers Bangui. Le Cameroun, où des chefs traditionnels du Nord-Ouest s'indignent d'une distinction honorifique accordée à Samuel Eto'o, une distinction si élevée que, en théorie, elle n'est accordée qu'à Paul Biya lui-même. Confusion et une forme de rétro-pédalage. Pédalage bien réel enfin et en marche avant, Binyam Girmay, le cycliste érythréen maillot vert sur le dernier Tour de France, confirme ses objectifs particuliers. Particulièrement élevé pour l'année 2025. Donald Trump signe, comme il l'avait annoncé, une flopée de décrets dans la foulée de son investiture comme 47e président des États-Unis. Le milliardaire républicain a pris ses fonctions hier soir et il est arrivé à la Maison-Blanche. Pour 4 ans et une montagne d'incertitudes pour le continent africain, personne ne sait vraiment sur quel pied danser, tant l'Afrique semble ne pas l'intéresser. Mais certains nourrissent tout de même des espoirs, ainsi du Somaliland par exemple, cette province de la Somalie, autoproclamée indépendante depuis 35 ans, mais dont presque personne ne reconnaît l'existence. Sauf que la semaine dernière, un comité de la Chambre américaine des représentants a écrit une lettre au département d'État, le ministère des Affaires étrangères, pour demander, Gaël Lalex, l'ouverture d'une représentation diplomatique à Hargeisa.
La lettre provient du comité en charge des relations avec la Chine. Elle déroule plusieurs arguments pour justifier une représentation américaine à Hargeisa. D'abord, la position stratégique du Somaliland, juste à l'entrée du golfe d'Aden. S'y installer permettrait de garder un œil sur la base militaire chinoise située à Djibouti et de surveiller les rebelles yéménites Houthis qui sévissent en mer Rouge. Ensuite, le Somaliland entretient des relations étroites avec Taïwan, allié de longue date des États-Unis. Il serait un atout majeur pour endiguer l'influence chinoise dans la corne de l'Afrique. Au cours du premier mandat de Donald Trump, ses diplomates avaient déjà témoigné un intérêt pour Hargeisa. Il est aujourd'hui appuyé par certains think tanks comme le Hudson Institute et plusieurs parlementaires républicains. Le mois passé, le député Scott Perry a déposé une proposition de loi pour la reconnaissance du Somaliland. De son côté, le ministre des Affaires étrangères somalien prévient. Toute reconnaissance du Somaliland déstabiliserait la région en créant un dangereux précédent. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
On revient évidemment en détail sur l'investiture du président Trump ce matin dans plusieurs pages spéciales sur nos antennes. La première d'entre elles dès 6h en temps universel. Autre événement international d'ampleur de ces 48 dernières heures, l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération d'otages de part et d'autre. De premiers camions humanitaires sont entrés dans l'enclave palestinienne exsangue. 900 camions selon les Nations Unies. Les travailleurs proprement dit espèrent que leur tour viendra sans tarder et que les autorités israéliennes faciliteront leur traversée au point de passage. C'est le cas par exemple pour le docteur Zouheir Lahna, médecin gynécologue qui a pu se rendre 3 fois déjà dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Il se trouve au Caire où il n'attend qu'un feu vert pour y aller de nouveau.
Et je pense que les besoins post-guerre, moi qui en ai fait pas mal, des fois ils sont aussi importants, sinon même plus, que les besoins pendant la guerre.
Qu'est-ce que ce cessez-le-feu change pour vous qui êtes des médecins, des humanitaires concrètement ?
Ah, ça change énormément. Déjà, on respire, on est content, on est heureux pour toutes ces personnes qui viennent de passer une première nuit sans bombardement, sans les bruits des drones, parce qu'à chaque fois qu'on était nous-mêmes, quand moi je passais de mon logement à l'hôpital, à n'importe quel moment il peut y avoir un missile qui tombe. Deuxième chose, il y a toute cette pathologie chronique qu'on va voir, tous ces blessés, et on va pouvoir penser à autre chose au quotidien qui est juste de secourir les gens, de parer au plus pressé. Maintenant, on est tellement content de ce ouf de cesser le feu que tout paraît possible.
Zouaïr Lahna, médecin, gynécologue marocain, témoignage recueilli par Amira Suilem. L'Église catholique prend la tête du Conseil œcuménique de Madagascar, le FFKM, qui regroupe les quatre églises chrétiennes de la Grande Île. La présidence de ce conseil tourne une fois par an et il revient donc aux catholiques pour 2025 avec à sa tête l'archevêque d'Antananarive, Jean de Dieu Rawelson. Mais ce cycle, a priori anodin, semble beaucoup plus scruté cette année que les précédentes, puisque les instances catholiques, qui étaient jusqu'ici plutôt conciliantes avec le pouvoir politique, ont radicalement changé de ton, Sarah Teto, à la fin de l'année dernière.
Les paroles de Mgr Jean de Dieu Rawelson seront décortiquées. En toute logique, le prélat qui préside désormais le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes devrait suivre les instructions données par la Conférence épiscopale de Madagascar. Or, ces derniers mois, l'organe suprême des catholiques sur l'île a pris des positions très tranchées. Dans son dernier communiqué, les évêques ont pointé du doigt les manquements du régime, dont les problèmes d'eau et d'électricité qui ne sont pas résolus, écrivent-ils, après tant d'années, et qu'il qualifie de forme d'homicide indirect. Haro également contre ceux qui osent affirmer que le pays progresse. Existe-t-il des gens payés pour faire l'éloge des dirigeants tout en étant indifférents devant les souffrances du peuple, s'indignent les auteurs. Tout a une fin, préviennent-ils. Ces jours-ci, l'ordre a été donné aux laïcs catholiques de prendre leurs responsabilités. C'est le réveil de notre Église, se réjouit un pratiquant très engagé, heureux, affirme-t-il, d'entendre un discours sans ambiguïté. Si historiquement l'Église catholique malgache a toujours joué un rôle majeur durant les crises politiques, elle s'est faite plus discrète dans ses prises de position depuis une quinzaine d'années. Ce revirement dans sa communication semble marquer une rupture avec le régime actuel. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Antananarivo, où il est 6h37.
Afrique Matin sur RFI.
Le gouvernement centrafricain confirme l'arrestation d'un chef rebelle au Cameroun, Armel Sayo, qui a été interpellé il y a 4 jours à l'aéroport de Douala. Il est en détention depuis cette date. Armel Sayo, suspecté de nombreuses violations des droits humains. Et même si l'accord de paix de Khartoum, il y a 6 ans, lui a permis de redevenir un temps ministre, il avait ensuite repris les armes et fondé un nouveau groupe armé, en l'occurrence la coalition militaire de salut du peuple et de redressement. Il avait récemment menacé de renverser le régime politique actuel. Le porte-parole du gouvernement centrafricain assure que des démarches d'extradition sont en cours, mais il assume aussi la discrétion sur le sujet.
C'est vrai, il a été arrêté. Il y en a qui veulent connaître la position du gouvernement. Nous ne travaillons pas de cette manière-là. La justice existe dans notre pays. Ce sont des criminels. Le moment venu, vous saurez l'action que le gouvernement mettra en place. C'est un travail qui se fait puisqu'il s'agit véritablement d'atteinte. On cherche à atteindre à l'intégrité territoriale de notre pays. Nous ne permettrons pas ça. Nous sommes déterminés à protéger la population et que nous n'accepterons pas qu'on puisse encore créer d'autres problèmes à la République centrafricaine. On lit ça dans les journaux que les autorités camerounaises sont réticentes de livrer. Ça, ce sont des spéculations. Nous ne sommes pas là. La justice camerounaise suit les procédures. De toutes les façons, les auditions ont commencé aujourd'hui et au fur et à mesure, on saura. Il y a tout un processus judiciaire qui va être mené en respectant le droit international. Et ça, c'est ce que nous aussi, on est un pays respectueux du droit international. Donc pour ça, vous aurez des informations supplémentaires.
Maxime Balalou, porte-parole du gouvernement centrafricain, au micro RFI de notre correspondant Rolf Steve Domialeux. Le Cameroun, proprement dit, et cette controverse un peu nébuleuse autour de Samuel Eto'o, le président de la Fédération nationale de foot. Il y a 4 jours, des images commencent à circuler en ligne qui montrent l'ancien attaquant auréolé d'un titre de chef traditionnel. Un notable de la région du Nord-Ouest lui décerne la plus haute distinction honorifique possible, bronca immédiate, notamment chez les autres chefferies du Nord-Ouest, qui rappelle particulièrement qu'un seul homme peut recevoir un tel titre, en l'occurrence le président Paul Biya. Polycarpe Samba.
Les photos et vidéos d'un Samuel Eto'o souriant et rayonnant avec ses nouveaux attributs de notabilité avaient à peine commencé à circuler sur les réseaux sociaux qu'un communiqué de la House of Chief, entendait la confrérie des chefs traditionnels du Nord-Ouest, est venu doucher les réjouissances qui allaient bon cours chez les fans de l'ancienne star des Lions Indomptables. Le communiqué signé du fond Yakoum Kevin Tevin, au nom de tous les chefs du Nord-Ouest qui croient savoir que Samuel Eto'o a été élevé au rang de fond des fonds, en français le chef des chefs, indexe d'abord un procédé de désignation non consensuelle, une violation des artefacts traditionnels et qualifie cet acte de nul et non avenu. De plus, le communiqué souligne que seul le président Paul Biya est attributaire du titre de fond des fonds, plus haute distinction honorifique dans la noblesse traditionnelle du Nord-Ouest. Confronté à cette polémique, le Fon Koshin, à l'initiative de l'attribution du titre à Samuel Eto'o, a dû apporter quelques précisions à celle-ci. Premièrement, affirme-t-il lui aussi, la distinction de Fon de Fon est exclusive au président Paul Biya. Deuxièmement, le titre qu'il a bien voulu décerner à l'ancien attaquant star du FC Barcelone ne l'est qu'au titre de son village et non au nom de toutes les chefferies du Nord-Ouest. Enfin, explicite-t-il encore, Samuel Eto'o n'est autre que son messager. Tout ne serait ainsi finalement qu'une question d'interprétation. Polycarpe Somba Yaoundé, RFI.
Lui ne vise aucune distinction honorifique, mais des récompenses bien concrètes. Binyam Girmay se remet en selle. Le cycliste érythréen fait savoir à qui veut l'entendre que 2025 sera une autre année où il faudra compter sur ses coups de pédale. Après avoir remporté 3 étapes sur le Tour de France et le maillot vert, performance historique, le sprinter de l'Intermarché Wanty va se lancer sur les classiques de printemps, la Milan-San Remo ou encore la Paris-Roubaix qu'il ne connaît pas.
Mon objectif, c'est d'arriver dans la meilleure forme possible au moment des grandes classiques et puis bien sûr ensuite pour le Tour de France. C'est la course la plus importante du calendrier. Il faut que je sois au même niveau qu'en 2024, me préparer pour ça, travailler aussi avec mes coéquipiers. Ce serait bien de regagner au moins une étape, peut-être plus, qui sait. Je connais mon potentiel, celui de ceux qui m'entourent, mais on ne s'attendait pas à remporter 3 étapes et le maillot vert l'année dernière. Ce sera dur de faire aussi bien, mais on va se donner à 100%. Et essayer de faire quelque chose de grand cet été encore sur le Tour de France.
Binyam Girmay, en revanche, qui n'est pas certain de s'aligner sur le Mondial 2025 au Rwanda, le parcours très montagneux n'étant pas adapté à son profil, mais il ne ferme pas complètement la porte tout de même, compte tenu du caractère historique que prendra l'épreuve. Beaucoup, beaucoup plus souple enfin que la montée du mur de Kigali ou des pavés de l'enfer du Nord, un peu de rock Touareg enfin, avec 11 nouveaux titres qui reviennent d'ailleurs aux fondamentaux, ceux du blues Touareg. C'est le groupe malien Songroy Blues, repéré il y a plus de 10 ans pendant le projet Africa Express de Damon Albarn, qui sort son 4e album, Héritage, écouté pour nous par Marius Lafont.
Sur la pochette, un homme portant un masque traditionnel bordé de coquillages. L'album Héritage de Songhai Blues marque bien le retour du groupe à ses sources. Les textes en songhai ou en bambara sur la vie au bord du Niger, les sonorités, tout ancre l'album dans la région d'origine des 4 musiciens, le nord du Mali. Leur disque précédent était rock, influencé par les Beatles et Jimi Hendrix. Ici, on sent la griffe folk et blues d'Ali Farka Touré. L'album entrelace de fines lignes de guitare acoustique et quelques points d'électrique. Aux sonorités délicates s'ajoutent des instruments traditionnels, balafon, kora ou soukou. Le rythme doux et la production épurée de l'album nous transportent comme si nous étions sur un navire descendant le fleuve Niger à observer les berges avec Songhai Blues jouant sur le pont.
Cet album Héritage, c'est aussi un petit documentaire sur sa composition et son enregistrement, documentaire en 3 épisodes disponibles sur la chaîne YouTube, du groupe Songhai Blues, avec des interviews des musiciens et des sessions d'enregistrement.
Afrique Matin sur RFI.
3h44 en temps universel au générique de la deuxième partie de cette demi-heure d'info. Deux éclairages économiques après que Donald Trump a pris ses fonctions. Comment la Chine semble avoir anticipé. On va voir les nouvelles importations de soja dans la chronique des matières premières. Et puis comment l'Afrique du Sud navigue sans GPS pour son marché de l'automobile. Ce sera le dossier Afrique Économie. La rentrée des profs hier à Mayotte. On en parle aussi avec les confrères du réseau La Première. Tout cela dans leur journal dans une bonne dizaine de minutes. Et le reportage de la rédaction, c'est d'abord un retour au Soudan du Sud avec ses réfugiés climatiques dans l'état du Jonglei. Ça fait 6 ans que des successions de pluies et d'inondations ont bouleversé, et pour de bon, le paysage. Des vallées entières qui se sont retrouvées sous les eaux et qui n'en émergent plus. 70 000 personnes ont été déplacées par la montée des fleuves, isolées aussi par l'instabilité politique. Parce qu'elles vivent dans une zone où prospérait une rébellion armée contre le président Salva Kiir, proche de Riek Machar. Et même si lui-même est aujourd'hui vice-président et qu'un accord de paix est toujours en vigueur, les réfugiés ont bien du mal à en voir l'application concrète. Florence Mieto s'est rendue sur place.
Des nénuphars flottent dans l'eau stagnante le long de la digue qui entoure le village de Pagwong. Gatluok Chwoldong, un officiel local, se remémore comment la communauté a été déplacée à plusieurs reprises par la montée de l'eau.
Les inondations nous ont poussés vers l'est. Nous avons dû abandonner notre bétail et migrer jusqu'au canal. Mais ces berges ne peuvent pas accueillir un grand nombre de personnes. Donc nous avons décidé de chercher un endroit où construire une digue pour mettre nos enfants et nos anciens à l'abri. C'est ainsi que nous avons construit cette digue.
Propriétaire d'une demi-douzaine de vaches qu'elle trait chaque matin, Nyakwam Deng Jokniang, 35 ans, mère de 3 enfants, confie que la nourriture manque.
Nous avions beaucoup de vaches avant les inondations, mais beaucoup sont mortes. Celles-ci sont les seules qu'il nous reste.
Elle montre une poignée de végétaux de forme ronde coupée en deux dont l'intérieur est rempli de grains blancs.
Ces bulbes de nénuphar, c'est ce qui nous permet de survivre. Nous les ramassons dans l'eau, nous les faisons sécher et nous les transformons en farine pour les cuisiner et les manger sans aucune sauce. Le lait des vaches, nous ne le donnons qu'aux enfants car il n'y en a pas assez pour nous les adultes.
De l'aide alimentaire doit être livrée bientôt par avion, c'est pourquoi la communauté coupe des arbres pour créer une zone de largage dans la forêt inondée. Philippe Kouandroa, le chef de l'administration locale, supervise les travaux. Avant le début de la guerre civile en 2013, il était enseignant à Ayod, la capitale du comté, aujourd'hui contrôlée par le gouvernement. D'enseignant, il est devenu combattant aux côtés des forces de Riek Machar, en guerre contre l'armée gouvernementale jusqu'à l'accord de paix de 2018. Un accord qui n'a, selon lui, pas été mis en œuvre.
S'il y avait vraiment la paix au Soudan du Sud, les gens ne souffriraient pas comme maintenant. Avant la guerre, nous étions à Ayod. Nous n'habitions pas dans ce coin reculé. Tout le monde vivait ensemble et travaillait. Les gens faisaient de l'agriculture et élevaient leur bétail. Mais quand les combats ont éclaté, tout s'est effondré. J'en appelle à la communauté internationale pour que cet accord de paix soit enfin mis en œuvre et que nous reprenions une vie normale.
L'officiel espère qu'une réconciliation entre les communautés sera possible afin que les habitants des bastions de l'opposition puissent circuler librement. Florence Mieto, de retour de Pagwong, RFI.
Troisième et dernier volet de ces reportages demain à la même heure. Vous les réécoutez aussi quand vous le voulez sur notre application dédiée. RFI Pure Radio 3h48 en temps universel. Les titres.
RFI, toute l'actualité. Édouard Dupenoit.
La une de ce 21 janvier 2025, c'est bien sûr l'investiture de Donald Trump, le 47e président des États-Unis, qui a déjà signé un grand nombre de décrets hier soir, à commencer par la grâce des 1500 personnes condamnées pour avoir assailli le Capitole le 6 janvier 2021. Donald Trump qui suspend l'interdiction de TikTok, qui claque la porte une nouvelle fois de l'accord de Paris sur le climat et de l'Organisation mondiale de la santé. Il déclare un état d'urgence permettant de mobiliser l'armée à la frontière avec le Mexique. Il remet en cause le droit du sol pour lutter contre l'immigration illégale. Dans son long discours d'investiture, enfin, Donald Trump promet de planter le drapeau américain sur la planète Mars et de reprendre le canal de Panama. Plus de 900 camions d'aide humanitaire sont entrés hier dans la bande de Gaza. C'est ce qu'indique l'OCHA, le Bureau des Affaires Humanitaires de l'ONU. Dimanche, au premier jour de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les Nations Unies avaient annoncé l'entrée de 630 camions alors que les 2 millions d'habitants de cette enclave font face à une situation humanitaire catastrophique. Et puis en France, les députés qui ont débuté l'examen du projet de loi d'urgence pour Mayotte. Son adoption ne fait guère de doute au regard de l'impératif d'accélérer la reconstruction de l'archipel plus d'un mois après le passage du cyclone Chido. On entre dans le détail de ce projet de loi d'urgence dans un peu plus de 5 minutes avec les confrères de La Première. Elle fait partie des premières concernées sur le continent africain. L'Afrique du Sud attend de savoir à quelle sauce elle va être traitée par la nouvelle administration Trump. Personne ne peut le dire aujourd'hui, puisque l'Afrique n'a quasiment jamais été mentionnée dans la campagne du Républicain et qu'il ne lui a montré que très peu d'intérêt pendant son premier mandat. Ce qui n'empêche pas, évidemment, la nation arc-en-ciel de faire des affaires avec les États-Unis, particulièrement en y exportant des véhicules. Les voitures produites en Afrique du Sud continueront-elles de traverser l'océan dans les 4 ans qui viennent? La question du dossier Afrique Éco, aujourd'hui avec Valentin Hugues.
L'industrie automobile sud-africaine compte sur les États-Unis. En 2023, c'est plus d'1 milliard d'euros d'exportation. Et si le protectionnisme de Donald Trump pourrait avoir un impact dévastateur pour l'Afrique du Sud, Norman Lamprecht du Conseil économique de l'automobile en Afrique du Sud reste confiant.
Aucun pays n'est autosuffisant. Chaque pays importe et exporte. Je pense qu'il faut être réaliste vis-à-vis de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Parce que vous avez toujours besoin d'importer depuis d'autres pays des matières premières pour les véhicules électriques en provenance d'Afrique du Sud, par exemple. Les États-Unis risquent d'être perdants si toutes ces opportunités sont saisies par des pays comme la Chine. Je pense donc qu'il faut vraiment être réaliste et je suis sûr que le président Trump a beaucoup de conseillers à ce sujet.
Reste que Donald Trump affiche une certaine hostilité vis-à-vis de l'Afrique du Sud et les BRICS en général. Et le doute plane concernant l'avenir de l'AGOA, un pacte commercial mis en place par les États-Unis dans les années 2000, qui favorise les échanges de marchandises avec certains pays africains, monnayant très peu de droits de douane. Un pacte qui a permis un boom des exportations de véhicules sud-africains, plus 500% en un peu plus de 20 ans. Brandon Cohen, porte-parole de l'Association nationale des concessionnaires automobiles.
Si Trump revient sur la participation de l'Afrique du Sud au sein de l'AGOA, cela affectera notre industrie nationale.
L'avenir de ce traité sera donc décisif pour l'industrie automobile sud-africaine. Mais pour l'économiste Tanti Payi, il y a également d'autres menaces avec ce retour de Trump au pouvoir.
Aujourd'hui, on ne peut pas savoir quelles seront les futures relations économiques avec les États-Unis. Mais moi, ce qui me préoccupe, ce sont les répercussions sur l'Afrique du Sud des politiques menées par les États-Unis dans son propre pays. Des droits de douane qui ne seront peut-être pas appliqués à l'Afrique du Sud, mais à d'autres partenaires commerciaux et qui pourront avoir une incidence sur les prix et les taux d'intérêt, avec un impact sur la finance mondiale qui nous affectera. Donc oui, l'inquiétude est là.
Une baisse des exportations sud-africaines pourrait aussi pousser des concessionnaires présents en Afrique du Sud à reconsidérer leur implantation dans le pays. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Dans une autre mesure, la Chine montre aussi des signes d'incertitude quant à l'avenir de ses relations commerciales avec les États-Unis. En témoignent cette fois les achats de soja. La part du soja américain acheté par Pékin a diminué déjà l'année dernière, comme si l'Empire du Milieu avait diversifié ses importations dans la crainte d'un éventuel repli protectionniste. Le Brésil et l'Argentine sortent grands gagnants de cette nouvelle donne, Marie-Pierre Olfan.
Lors du premier mandat de Donald Trump, le soja avait souffert plus que n'importe quel autre grain des tensions entre la Chine et les États-Unis. Les importateurs chinois ont donc essayé d'anticiper une reprise de la guerre commerciale. Ils ont augmenté leurs importations de soja américain pendant plusieurs mois en 2024, mais sur la totalité de l'année, les volumes ont finalement chuté de plus de 5%. Avec cette baisse, la part de marché des États-Unis est tombée à moins d'un quart, selon les calculs de l'agence de presse Reuters. Le soja qui n'a pas été acheté en Amérique du Nord l'a été en Amérique du Sud. Le Brésil a augmenté ses ventes aux géants asiatiques l'année dernière. Plus de 70% du soja acheté par la Chine est maintenant brésilien. Le géant agricole a l'avantage d'offrir des prix compétitifs et les volumes nécessaires. Mi-janvier, l'Agence agricole nationale a encore relevé ses prévisions de production. La CONAB prévoit une récolte record cette année et des exportations supérieures à 105 millions de tonnes. Dans une moindre mesure, l'Argentine a profité également de la stratégie chinoise de diversification. Le pays a plus que doublé ses ventes de soja vers le géant asiatique. Ses achats en Amérique latine de la Chine, sur fond de crainte de guerre commerciale avec les États-Unis, ont abouti à un volume record d'importation de soja pour le pays. Les stocks qui se sont constitués vont permettre à la Chine d'attendre de voir à quoi ressembleront les premiers jours du nouveau mandat de Donald Trump. Ces stocks annoncent aussi probablement un ralentissement des importations chinoises de soja dans les prochaines semaines. Ralentissement qui pourrait faire baisser les prix sur les marchés mondiaux.
Marie-Pierre Olfan pour l'actualité des matières premières. Le retour de l'info internationale dans 5 minutes, un peu plus. Avec Alban Le Prince, avant cela, on appelle les confrères de la première pour l'actualité dans les territoires français de l'océan Indien. La rentrée des profs et des personnels administratifs hier à Mayotte, 6 semaines après le passage du cyclone Chido à la une. Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour. Une rentrée 2025 particulière, forcément particulière, suite aux dégradations de toutes sortes causées par le passage du cyclone Chido. Zaliata Dahalani.
Si le rectorat et les communes semblent mettre les bouchées doubles pour remettre en état les établissements endommagés et accueillir un maximum d'élèves, le 27 janvier, les syndicats enseignants sont réfractaires à l'idée. La question de la mise en sécurité des sites revient beaucoup. Ils dénoncent une démarche forcée de l'État au regard de la situation. Selon le rectorat, une quarantaine d'écoles nécessitent des travaux de réparation plus importants, donc dans l'incapacité d'accueillir les élèves. À ces nombreux défis liés au manque de structure et à la remise en état des sites, s'ajoute le manque d'enseignants. Nombreux sont partis et ceux qui restent doivent encore faire face aux conséquences de Chido. Certains ont perdu leur logement, d'autres sont encore traumatisés et n'imaginent pas une reprise de sitôt. En bref, il y a du pain sur la planche pour espérer une reprise des cours sans encombre le 27 janvier, soit 2 semaines plus tard que prévu.
Pas d'eau ou si peu dans les robinets, c'est le monde à l'envers qui continue à Saint-André dans l'est de la Réunion, autrement dit une région où l'on ne devrait pas souffrir d'un manque d'eau. Mais la sécheresse est pourtant bel et bien d'actualité, ce qui n'empêchera pas la rentrée scolaire de se dérouler ce mardi, comme prévu, à la Réunion. Et comme l'explique le maire de Saint-André, Joé Bédier, au micro de Patrick Ramoudou.
On a vraiment mis l'éducation au cœur de nos priorités parce que moi je considère que les enfants saint-andréens ont besoin d'apprentissage et ils ont eu une période de vacances et là ils doivent reprendre les cours parce que certains aussi parmi eux ont des lacunes, des problèmes, des faiblesses. On ne doit pas les lâcher comme ça et se dire mais une semaine, mais pourquoi pas 2 semaines? Si la pluie tombe toujours pas, on n'a pas d'école. Non, on a bossé dur, toutes les équipes que je remercie d'ailleurs, pour trouver toutes les solutions, la mise en place des citernes d'eau, des toilettes chimiques. Et puis, concernant la confection des repas à la cuisine centrale, on va avoir l'assise pour qu'on puisse disposer de l'eau de 6 heures au moins jusqu'à 11 heures pour que les agents de la cuisine centrale puissent confectionner les repas.
Retour à l'actualité du département 101 avec le projet de loi d'urgence pour Mayotte, examiné depuis hier en première lecture à l'Assemblée nationale. 5 jours d'examen étaient prévus avant un vote vendredi. Charles de Quillac.
Pour les écoles, l'État prend les commandes. Il devient propriétaire des établissements scolaires à reconstruire durant maximum 2 ans. Une fois réparées, elles reviendront à la charge des mairies. Le texte souhaite aller très vite dans les démarches administratives. 1 mois au lieu de 3 pour les délais de permis de construire, 15 jours au lieu de 30 pour faire une enquête publique. Le projet de loi vise aussi à faciliter les règles des marchés publics. Pas de publicité obligatoire pour les commandes à moins de 2 millions d'euros. Les commanditaires pourront aussi réserver 1/3 des commandes aux entreprises mahoraises. Il y a aussi un volet accompagnement de la population dans ce projet de loi. Les dettes sont suspendues jusqu'au 31 mars. Les entreprises bénéficient d'un an de report de leurs charges. Les indemnités chômage pourront être prolongées. L'État compte financer ces aides avec une nouvelle taxe sur les cigarettes. Enfin, les parlementaires attendent qu'on leur rende des comptes. 1 mois après la publication de la loi, un bilan humain sérieux du nombre de victimes devra être publié. Chaque année, le gouvernement devra remettre un rapport sur l'avancement de la reconstruction jusqu'en 2035.
Fin de cette édition. Bonne journée.
Merci et bonne journée à vous également, Benoît Ferrand, ainsi qu'à tous les confrères de la première. C'est la fin aussi de cette première édition africaine sur Radio France Internationale, réalisée par Thierry Le Saint. Merci à lui. Vous retrouvez Sébastien Duhamel dans une demi-heure à 4h30 en temps universel à la une de son journal. On reviendra sur ces très lourdes condamnations à mort prononcées en République démocratique du Congo contre des jeunes dits des Kulunas. Ces gangs sans pitié qui sévissent ou qui sévissaient à Kinshasa, la capitale. Je profite enfin des quelques secondes qui me restent pour passer un salut amical à Prince Iwangu. Vous êtes gabonais, vous vivez en banlieue de Francfort, en Allemagne. Ça fait presque 20 ans que vous nous écoutez religieusement. C'est ce que vous nous avez écrit sur notre adresse africematin@rfi.fr. Et je passerai aussi votre salut à toute l'équipe de RFI Matin. Le journal dans une minute.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Le Togo va-t-il rejoindre l'Alliance des États du Sahel? Ce n'est pas impossible, a déclaré Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires étrangères. Que vous inspire cette hypothèse? Le pays quittera-t-il la CEDEAO? Quels seraient les avantages pour Lomé?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
A tout à l'heure sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
entreprendre en Afrique pour les jeunes diplômés avec les conseils du coach Didier Akwété.
Demain,
calculer le coût d'un crédit ou comment utiliser facilement les mathématiques au quotidien.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.